un œil ailleurs. Un petit tour de la planète. Totalement subjectif.
Notre petit tour de la planète totalement subjectif commence aujourd'hui par l'Espagne, qui va tester la semaine de 4 jours à partir de janvier 2022. Et oui, ça fait rêver, je vous l'accorde. Et ce qui fait encore plus rêver, c'est que c'est une proposition du groupe parlementaire de la gauche radicale qui a été retenue par la coalition de gauche au pouvoir. Bref, à partir de janvier, 200 entreprises volontaires de tout secteur et de toute taille vont donc mettre en œuvre la semaine de 32 heures en contrepartie d'une aide financière. Et leurs résultats seront comparés à ceux des entreprises à 5 jours semaine, l'idée étant bien entendu de ne pas réduire les salaires comme l'ont fait quelques grandes marques comme Desigual ou Telefonica qui sont passées à 4 jours contre une diminution de salaire. Alors les syndicats rappellent que ça s'appelle du temps partiel et qu'on connaît déjà le principe. Alors que l'idée, c'est de montrer que les gains de productivité sont tels qu'on peut travailler moins et générer autant de chiffres d'affaires. D'ailleurs, une étude menée au sein de l'OCDE montre que les pays où la semaine est la plus courte, à savoir les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège, eh bien ce sont ceux où le PIB par heure travaillée est le plus élevé, CQFD. D'ailleurs, une étude menée au sein de l'OCDE montre que les pays où la semaine est la plus courte, à savoir les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège, eh bien ce sont ceux où le PIB par heure travaillée est le plus élevé, CQFD. C'est d'ailleurs le bilan de la société de logiciels Del Sol, en Espagne, hein, qui est passé à 4 jours dès janvier 2020, bilan des courses, augmentation de l'effectif de 15%, absentéisme en baisse de 28%, chiffre d'affaires en hausse de 20% et taux de rotation du personnel tombé à 0%. Bref, on attend avec impatience le résultat de cette expérimentation espagnole. On continue notre petit tour de la planète par la Russie, où les jours, les mois et les annonces en matière d'atteinte aux droits de l'homme se suivent et se ressemblent. Alors cette fois, c'est donc contre l'ONG Mémorial International que Poutine en a. Enfin non, pardon, non, c'est pas Poutine, c'est la justice russe. Donc, des procureurs ont demandé la liquidation judiciaire de cette organisation qui fait partie des associations de défense des droits de l'homme les plus anciennes et les plus respectées en Russie. Alors, Mémorial a été créé il y a 30 ans pour sauvegarder la mémoire des victimes des violations des droits humains commises pendant la période soviétique. Donc pour Amnesty International, s'en prendre à Mémorial, c'est tout simplement effacer tout un pan de l'histoire du pays. Alors forcément, dans le contexte du moment et sans surprise, l'ONG est accusée de, je cite, « glorifier le terrorisme et l'extrémisme ». Et le bureau de procureur n'est pas une incohérence près puisqu'il affirme que Mémorial viole la Déclaration des droits de l'homme et la Convention des droits de l'enfant. Sauf qu'Amnesty rappelle qu'une ONG ne peut pas violer les traités internationaux, ça c'est le privilège des États, et pourtant la Russie en connaît un rayon dans le domaine. À propos de droits de l'homme, cette fois c'est Human Rights Watch qui tire la sonnette d'alarme au Myanmar, autrement appelé Birmanie. Vous n'êtes pas sans savoir que la junte militaire a pris le pouvoir en février dernier en s'asseyant allègrement sur les droits de l'homme. Depuis, le programme quotidien de la junte au pouvoir, c'est répression des opposants, meurtres, tortures, crimes de guerre. Rien que très classique, quoi. Sauf que pour se maintenir à flot économiquement, la junte compte sur les juteux revenus des entreprises internationales qui exploitent les gisements de gaz là-bas, parmi lesquels Total Energy ou Chevron. Et par ricochet, on trouve quelques autres entreprises actionnaires de ces grands groupes. Alors pour Total Energy, on prend BNP Paribas, la Caisse des dépôts, la Banque Postale. Alors en France, aux lettres envoyées par Human Rights Watch, ce petit monde a répondu se préoccuper de l'évolution de la situation au Myanmar et en discuter avec Total Energy. Mais par contre, rien sur un éventuel soutien aux mesures destinées à bloquer le versement des revenus du gaz à la junte. Business is business. Enfin, on termine notre petit tour de la planète par ce qui pourrait ressembler à une blague, mais qui, non, n'en est pas une. Interpol, l'agence de police internationale, est en train d'élire son nouveau dirigeant à l'occasion de son assemblée générale. Et devinez qui est candidat ? Un général émirati qui est accusé en Europe de complicité de torture. Et oui, des parlements français et britanniques disposent d'informations qui l'accusent clairement d'avoir eu un rôle direct dans des cas de violation de droits de l'homme. Rien que ça. Ce monsieur, donc Ahmed Nasser Al-Raissi, qui est actuellement inspecteur général au ministère de l'Intérieur émirati, pourrait se retrouver à la tête de l'organisation policière internationale dont la mission est, je cite, « créer un monde plus sûr ». Mais visiblement, sur cette mission, il semble qu'il y ait une légère méprise de la part de certains pays membres, puisque les demandes d'arrestation ou d'extradition de fugitifs recherchés explosent littéralement. En fait, elles sont passées de 1200 dans les années 2000 à 14 000 aujourd'hui. Et de la part de pays totalement démocratiques, hein, comme l'Azerbaïdjan, le Nicaragua, la Russie, l'Arabie Saoudite, la Chine, le Mexique et... tiens donc, les Émirats Arabes Unis. Il semblerait que certains États confondent fugitifs et opposants politiques. Bref, curieusement, les Émirats Arabes Unis ont été très généreux dernièrement vis-à-vis d'Interpol, alors que la participation de chaque État membre est de 240 000 euros. Eh bien, eux, ils ont fait un don volontaire supplémentaire de 50 millions d'euros, qui correspond pile poil, ça alors, au budget nécessaire pour la réfection du siège d'Interpol à Lyon. Alors, de là à y voir un geste d'encouragement pour élire leur candidat, il est un pas que nous ne franchirons évidemment pas ici, de peur de faire du mauvais esprit. Chers auditeurs, je vous laisse donc méditer sur le concept de liberté d'action au sein des organisations internationales et vous retrouve ici même dans 15 jours.